France Inter.
Ce qui compte pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout. Vous.
Allez, action !
Ce qui sera encore mieux, c'est de rien dire.
Le cinéma est fragile. Ils l'ont à peu près tous dit avant-hier soir à cette 51e cérémonie des Césars, d'un 7e art français qui, oui, a peur de l'avenir. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous.
Alors pas vraiment de perdants à cette remise des prix, excepté Jafar Panahi, et deux films, Nouvelle Vague et L'Attachement, qui se sont partagés la moitié du gâteau. Nous y reviendrons. Avant d'en arriver là, au César, des parcours d'acteurs, d'actrices, et sur leur chemin, la chance et le talent, le leur, et celui de celui ou celle qui l'a révélé. Bonjour Stéphane Battu.
Bonjour Christine.
Directeur de casting pour de très nombreux cinéastes, Desplechin, Beauvois, Podalydès, Cantet, Guiraudy, Amalric, Caillet, pour ne citer que, oui, le talent d'avoir senti, découvert le bon acteur pour le rôle. Parmi ceux-là, ce jeune gars et sa vidéo d'autopromo sur YouTube. Bonjour Guillaume Marbeck.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour, devenu Godard pour Nouvelle Vague de Richard Linklater. Et nous, ce matin, nous avons aussi parié sur elle, sûr de nous, de son talent. Bonjour Jimine Park.
Bonjour.
Artiste plasticienne et actrice révélée dans Retour à Séoul de David Chou et trois fois à l'affiche en 25, Love Me Tender, Vie privée et La petite dernière pour laquelle vous étiez nominée. Enfin, les sorties de ce mercredi de cinéma entre l'Iran, le Maroc, le Japon, le Portugal ou l'Amérique. Bref, un grand voyage, c'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
En tout cas, c'est un honneur, hein, cher Benjamin Laverne, de partager cette soirée avec vous, qui êtes un si grand acteur, ah ouais, de théâtre, de cinéma. Mais vous avez une sacrée palette, hein. Vous pouvez tout jouer, un chef d'orchestre, un marié qui s'envole, même l'abbé Pierre Innocent. Ça... si. Non, mais... Pardon, mais s'il vous plaît. Oui. Crevons l'abcès, je le fais pour vous, Benjamin. C'est l'éléphant dans la pièce. Non, tout le monde ne pense qu'à ça depuis 20 minutes. Si, je le dis, s'il vous plaît, il faut séparer Benjamin de l'abbé, pas d'amalgame. Non. Allez, je me dépêche de lire les nommés.
Ouais, s'il vous plaît, merci.
Benjamin tient à ce que cette cérémonie se passe bien. Il compte vachement dessus.
Ouais.
Hein, il a en ce moment même un film dont le financement est en cours. C'est le biopic de Jack Lang.
Allez, c'est bon. Ouais.
L'humour d'Alison Wheeler devant une communauté de cinéma inquiète pour son avenir. Plusieurs allusions à l'intelligence artificielle. Un merci à la France de Laurent Lafitte pour son exception culturelle menacée, tout comme le cinéma d'auteur Camille Cotin. Un hommage à Bardot sifflé et beaucoup de femmes honorées. Réalisation, montage, costumes, décors, effets visuels, scénarios, adaptations. 13 sur scène et le tout mené avec aisance et immense talent par Benjamin Laverne, Laurent.
Oui, alors le tout en présence de la nouvelle ministre de la Culture dont le cinéma attend plus que la précédente, mais ce sera pas difficile, je pense. Peu de moments gênants au cours de cette cérémonie, contrairement aux années précédentes, à certaines années en tous les cas. Alors c'est vrai, une impression de saupoudrage, quelqu'un l'a dit, je crois que c'est Karine Tardieu, mais c'est un peu aussi la règle du jeu, et après tout, si tout le monde est content, tant mieux. Vous le disiez, et vous avez bien raison, une belle présence féminine. Il y a eu, je crois, en fait, plus de femmes sur scène que d'hommes. Suffisamment rare pour être noté, mais après tout, voilà, le vent est bon, et moi je retiendrai notamment Marina Hans et Pauline Clément dans le sketch qui m'a fait le plus rire en honneur à la fois aux comédiennes et surtout à leurs costumes. Et puis dernière petite notation, l'intelligence collective contre l'intelligence artificielle, depuis les effets spéciaux jusqu'au doublage, ça faisait du bien d'être dit et redit.
Karine Tardieu, donc 5e femme à recevoir le César du meilleur film après Tony Marshall, Agnès Jaoui, Pascal Ferrand ou Justine Triet.
À ton âge, je rêvais déjà de le gagner, ce Graal tout compressé, mais c'est en chemin que j'ai découvert le véritable trésor. La joie de la création collective, du désir partagé, décuplé par toutes ces compagnes et compagnons de route, producteurs, distributeurs, partenaires, tous ces talents, artisans, exploitants, ces bâtisseurs de sens commun qui s'agrègent avec humilité, dont la passion et la force de travail n'ont rien d'intermittente. Alors quand tes copains et copines passeront à la maison, ne te la pète pas trop, mon enfant, parce que ce César ne m'appartient pas plus qu'à tous ces autres. Et ce soir, c'est tous ensemble qu'on ramène la coupe à la maison.
Comment vous avez vécu cette cérémonie, Jimin Park ? Vous étiez nominée meilleur second rôle,
oui.
À côté d'actrices confirmées d'ailleurs.
Oui, à côté d'actrices très confirmées. Moi, j'étais quand même. Parce que oui, c'était seulement mon deuxième film que la petite dernière était seulement mon deuxième film.
C'est ça qui est fou, alors que vous n'avez pas été nominée pour Les Espoirs.
Oui.
C'est votre première nomination et déjà pour un second rôle.
Oui, c'est assez fou. C'est fou. Et du coup, j'étais juste heureuse, en fait, d'être là et d'être nommée à côté de ces fantastiques autres actrices. Ouais.
Guillaume Marbeck, c'est vraiment une grande famille, le cinéma, ou pas ?
Je sais pas, moi je suis juste là, je suis arrivé, je suis vraiment passé de mon canapé à la salle et j'ai profité de la soirée. Donc je sais pas si c'est une grande famille, on verra. Moi je viens d'ouvrir la porte, on va dire, je dis coucou, ça va et tout, et j'attends de voir s'il y a un ça va en retour et tout ça. Voilà, c'est marrant.
Stéphane Batu, il devrait quand même y avoir un César du casting, non, vous trouvez pas ?
Bah oui.
Ah, je sais pas.
Bah oui.
Je sais pas, non. Je pense
d'ailleurs,
que
il vient d'être inauguré. Il va être inauguré aux Oscars à Hollywood.
Ah.
Pour la première année.
Oui, oui, ça je sais, parce que j'ai dû faire une petite interview pour Netflix qui voulait défendre un peu le casting de Nouvelle Vague aux Oscars. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais un César, c'est compliqué pour les personnes qui font du casting d'avoir une vision très claire de la participation. C'est comme il n'y a pas de César du premier assistant. Par contre, on m'a questionné là-dessus.
Voilà, Stéphane Marbeck est bien connu de le casting.
Oui,
même,
oui,
le
oui.
Non, mais
là, je vous donne un exemple. Enfin, c'est vraiment, je sais bien que ma participation au film est notable, du film de Richard. Mais
bien sûr.
Par exemple, j'ai travaillé avec Jacques Nolo. Il y a quelques années, et j'ai fait le casting, mais il n'y a aucun des acteurs que je vais présenter qui est dans son film. Donc si vous voulez, c'est quand même des fois un peu compliqué de savoir la part qu'on défend. Alors, ce que je peux penser d'intéressant, c'est qu'il y a un prix, par exemple.
Oui.
Qu'il y a un prix, alors comment Tatiana Vial m'a appelé pour me dire, est-ce que tu penserais que ça serait bien qu'il y ait un prix
de la distribution au sens du casting, pour parler français.
Et qui serait au moment du déjeuner des révélations.
Ouais.
Et ça, je trouve que c'est peut-être quelque chose de plus juste. Quoi. Mm. Voilà.
Alors, votre métier, on va le raconter un petit peu, déjà à travers cet extrait.
Putain, excusez-moi, c'est pas vrai.
Calmez-vous, qu'est-ce qui se passe?
Il est coincé, il peut pas se déplacer, et il me demande de venir à l'autre bout de la ville chercher le double des clés.
Ça irait peut-être plus vite d'appeler un serrurier.
Mais j'ai pas le temps, je suis très en retard, j'ai un rendez-vous dans une demi-heure. Oh, j'y serai jamais. C'est fichu. C'est pas évident, la dernière phrase, hein. Je suis vraiment obligée de le dire trois fois, c'est fichu.
Ah bah ouais, si c'est écrit comme ça, faut le dire comme ça. Mais alors, par contre, est-ce que vous pouvez essayer d'être un peu plus émouvante?
Comment ça?
Plus émouvante?
Bah, je sais pas, c'est à vous de me dire, hein. C'est,
je sais pas, plus émouvante, quoi.
Le réalisateur, vous savez s'il rencontre beaucoup de monde?
Ah ouais, j'en ai encore 14 à voir, là, toute la journée la même chose. Bon, je vais pas avoir l'impolitesse de vous demander votre âge.
Bah ça tombe bien, parce que je vais pas vous le dire.
Emmanuel DeVos, dans Le Temps de l'aventure de Jérôme Bonnel, un casting et son lot d'humiliations. Et elles sont pratiquement tous passées par là, on va demander à nos deux jeunes acteurs. Mais d'abord, Stéphane Batu, c'est cliché cette scène ou pas ?
Je peux pas vous dire, parce que comme je suis pas à tous les endroits du casting qui existe, mais
c'est pas vos méthodes, ça.
Ben non, mais mais je sais que ça arrive, puisqu'il y a des acteurs qui me disent, ah ben c'est sympa d'être de passer un casting avec toi, puisqu'on on en sort plutôt avec le sourire. Mais moi, ce que j'essaye de faire dans un premier temps, c'est des rencontres.
Ouais.
Donc effectivement, c'est pas d'arriver à un résultat immédiatement en demandant aux gens d'être efficace, mais c'est plutôt je m'intéresse plus aux personnes qu'aux personnages, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire que c'est parce que après on va avoir sur un écran une personne avec toute sa complexité humaine qu'on va adhérer à un personnage plutôt que de se plier à quelque chose qui serait un personnage de papier qui est dessiné avec quelques lignes et auquel il faudrait se conformer.
Ouais.
Quoi. Donc oui, je sais. Enfin, moi, j'ai une amie qui, il y a longtemps, m'a expliqué qu'on lui avait demandé d'embrasser quelqu'un qui n'était pas là. voilà, de mimer un baiser. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a des choses des fois qui doivent être un peu, oui, qui doivent être un peu bizarres. Mais voilà, moi c'est vrai que je, et aussi parce que j'ai eu la chance de rencontrer dès le début de mon travail de casting des cinéastes qui s'intéressaient aux comédiens et aux comédiennes,
notamment,
voilà, Noémie Lvovsky, voilà, des,
ouais.
Et mais aussi des personnes qui s'intéressaient aux, aux personnes comme Claire Simon, Nicolas Klotz. Voilà, il y a une, je pense, une logique un peu dans la manière que j'ai de travailler, qui est forcément liée à toutes les choses que j'ai piquées ou aux gens avec qui j'ai travaillé.
Jimin Park, vous avez connu des humiliations en casting ? Ou Guillaume ?
Et pour l'instant, j'ai de la chance. J'ai pas eu de moments d'humiliation en casting, mais je pense que c'est quand même un exercice assez particulier, parce qu'on a très peu de temps. Et c'est vrai que, comme tu disais, c'est, enfin, moi, je pense que ça devrait être une rencontre humaine également, pas que une rencontre entre un directeur ou une directrice de casting et un acteur ou une actrice. Mais c'est vrai que c'est tellement un exercice particulier, je trouve, que c'est difficile, en fait, en 20 minutes de montrer, enfin, quelque chose. C'est un exercice vraiment particulier qui peut être assez déstabilisant.
En plus, vous dites que effectivement les acteurs actrices d'origine asiatique sont très peu choisis.
Oui.
En plus,
oui, bah elle ou ils sont très peu choisis parce que il y a pas de rôle, en fait. Il y a pas de rôle,
ou des rôles clichés.
Il y a, enfin, je pense vraiment que il y a des rôles clichés. Oui, moi je connais vraiment des amis qui ont dont leurs rêves d'être comédien ou comédienne ont été brisés parce que on leur proposait de passer des castings, et au casting on leur demandait de faire des accents chinois, ou c'était que des personnages qui avaient qui était vendeur de sushis alors que cette personne, enfin ce personnage était d'origine, ouais, chinoise, enfin genre, ouais, des trucs, mais genre complètement hallucinant. On se dit c'est hallucinant, mais c'est la réalité.
Ouais.
Et c'est vrai que moi, je, enfin, c'est pas un constat personnel, c'est vraiment un constat du paysage du cinéma français. C'est que il y a pas qui pouvez-vous me citer en tant que, enfin, actrice ou acteur d'origine asiatique aujourd'hui en France, à part oh là là, pardon, j'ai un trou.
L'actrice de Dia.
Exactement. Ouais. Oui.
Lindan
Pham. Ouais. Non.
Lindan Pham.
Non, Lindan Pham et la jeune actrice dans le dernier film.
Ah oui, dans les Olympiades.
Dans les Olympiades.
Ouais, dans les Olympiades. Elles sont que deux, et vous-même, vous rappelez même pas de son nom.
Non, non, mais c'est parce que.
Non, mais c'est pas pour vous accuser, mais ça veut dire qu'il y a une invisibilité dingue, quoi.
Non, mais c'est. Oui, il y a une invisibilisation. Enfin, de. Qui est hyper violente, parce que quand vous sortez dans la rue, enfin, c'est pas du tout la réalité. Enfin, la société française est quand même assez mélangée, assez mixte, et on ne retrouve pas du tout ça dans le paysage du cinéma français. Et c'est pour moi une très grande violence et quelque chose de pas du tout réaliste, en fait.
Et vous, Guillaume Marbeck, en casting, ça se passait comment avant de rencontrer Stéphane Battu ?
Bah écoutez, ça se passait pas toujours bien, mais c'était pas la faute des directeurs de casting. C'est-à-dire que moi, je me mettais une pression énorme au début, et donc j'ai dû en faire beaucoup avec des projets de films étudiants ou amateurs, etc., pour me faire la main et me désacraliser cette idée de casting où je me disais, il faut absolument que je l'aie. Et en fait, je venais plutôt après un moment... en casting avec une proposition en disant voilà ce que sera le personnage si vous me choisissez, et c'est le film que j'ai envie de faire, et si ça vous va, prenez-le, si ça vous va pas, tant pis, on fera pas le même film.
En tout cas, Stéphane Battu est tombé sur une vidéo YouTube de vous, Guillaume.
Je m'appelle Guillaume Marbeck, je suis un acteur français et j'ai des cheveux qui se placent très bien dans l'espace. On peut en faire ce qu'on veut, me faire plein de coupes dans tous les sens, et j'adore ça. En ce moment, je me suis rasé parce qu'apparemment, on voit mieux le visage. Le gars est complètement fou, putain. Mais c'est bien, tu vois, c'est ça qu'on cherche. On cherche quelqu'un un peu barré, non ? On cherche quelqu'un qui va pouvoir ne pas se freiner, quoi. Hein ? C'est pas ça qu'on cherche ? Ah oui, j'ai oublié. Ouais, j'ai des belles mains, d'après certaines personnes qui font de la pub. Donc si vous avez besoin de mains, elles sont là. Voilà, c'était Marbeck. À la prochaine.
Stéphane Battu, comment on passe à cette petite vidéo amateur à l'idée qui va pouvoir incarner Jean-Luc Godard?
Bah, c'est un peu évident, non? Ça vous semble pas? Non, mais c'est vrai que c'était quand même assez drôle et impertinent. Et je me suis dit, voilà, il y a quelque chose de la nature du personnage. Après, tout ce qui est de l'ordre du travail, de la ressemblance, moi, je me suis dit quand même qu'il y avait une petite chose qui me semblait possible. Mais quand je l'ai rencontré après, en vrai, le premier jour...
Ah oui, il nous a raconté.
Nous, il raconte des choses qui sont des fois un peu étranges. mais en fait, ce qui m'a aussi vraiment dit que c'était sans doute la personne qu'il fallait, c'est qu'en partant, il m'a dit, et surtout, dites bien au réalisateur que je coûte pas cher.
Mais bon, vous choisissez Godard, mais surtout, il faut le dire, le travail extraordinaire que vous faites sur ce film Nouvelle Vague, vous devez choisir une famille entière, en fait. C'est ça qui est dingue, le casting est fou, entre choisir un nouveau Belmondo, Truffaut, Chabrol, Schiffman, Bourgard, Rissian...
Seberg.
Non, c'est pas vous, Gene Seberg.
Ah, non.
Non, non, vous avez choisi toute cette bande. Comment, mais ça vous a pris combien de temps, cette...
Bah, c'était en deux parties, puisque là, le premier moment, il n'y avait pas de production française. J'étais en contact direct avec Richard, par l'intermédiaire de Serge Catoire.
Ouais.
Et donc, je me suis dit, mais c'est une chance, c'est un film américain, ils ne connaissent pas les acteurs français, donc je peux choisir, enfin, je peux proposer des gens qu'on ne connaît pas, quoi. Et quand une production française est arrivée, qui finalement a produit complètement le film, ARP, donc Michel et Laurent Pétain. Je me suis dit, bon, bah, c'est, voilà, tout va être mis en cause, parce qu'ils vont avoir leur idée, il faut financer le film, c'est un film qui coûte cher. Et quand je suis arrivé avec les premiers essais qu'on avait faits, bah, il y avait déjà Guillaume, il y avait déjà Aubry.
Aubry Dulin, voilà, pour Belmondo.
Voilà, il y avait déjà 4-5 personnages qui étaient envisagés. Ils m'ont dit, ok, on continue. J'ai trouvé ça quand même assez courageux, mais il y avait déjà, je pense, quelque chose à voir de la nature du film et d'une sorte d'audace à aller dans cette direction. Et voilà, donc après, c'est en fait des comédiens qui m'intéressent, il y en a beaucoup. Donc, et des comédiennes, de créer une famille, c'était pas si compliqué parce que après, il fallait évidemment chercher des ressemblances, des évocations, plutôt des esquisses des personnages, trouver une espèce d'essence de ce qu'ils représentaient, mais... C'était assez différent de ce que j'avais fait, par exemple, pour le film de Johann Sfar, Gainsbourg, où j'avais cherché plutôt des héritiers, aujourd'hui, des personnages de l'époque.
Oui,
par exemple, Philippe Catherine faisait Boris Vian,
oui.
Alicia Casta faisait Brigitte Bardot, etc. Donc il y avait plutôt une autre manière d'envisager la chose, alors que là, c'était vraiment l'idée qu'il fallait que Richard puisse se croire lui-même à l'intérieur d'une illusion, quoi, sur le plateau, et qu'il puisse se dire, bah, je suis entouré des personnes que j'ai vues à l'époque dans le film.
Vous avez aussi découvert, il faut le dire, Vincent Lacoste, donc pour les beaux gosses, c'est très important. Ça ne s'apprend pas, votre métier. C'est quoi? C'est de l'instinct? C'est de la psychologie? Comment on peut déceler chez ce garçon qui fait une super carrière depuis, en plus?
Mais je n'ai rien décelé du tout. Moi, je lui ai dit... Évidemment, je l'ai proposé à Riyad Satouf pour faire le personnage principal. Et il avait été, en fait, repéré par quelqu'un qui travaillait avec moi. J'avais des assistants,
ouais,
qui s'appellent Gaël, Sandy Varas. Il est venu faire des essais. Et après, quand le film a été fait, qu'il s'est retrouvé à Cannes, à la quinzaine, je crois, j'ai dit, Vincent, écoute, profite de ce moment-là, parce qu'il n'y aura sûrement pas d'autres films après. J'ai dit, voilà, je préfère dire ça, parce que c'est juste de penser les choses comme ça. Dire, voilà, c'est une expérience, t'as 15 ans.
Il avait 15 ans, Jimmy. Il est votre mari dans le film
de Rebecca
Zotowski.
Oui, tout à fait. Et il est génial. Enfin, je trouve que c'est un acteur incroyable.
Donc vous aviez un vrai acteur en face de vous, avec de l'expérience.
Oui, avec beaucoup d'expérience, oui. Ouais.
Les faux acteurs sont aussi des vrais acteurs. Hein.
C'est vrai.
Bah, quand c'est notre premier film ou deuxième film, on est aussi des acteurs.
Justement, Guillaume, il fallait être à la hauteur des espérances, finalement.
Ah bah, il y avait beaucoup d'espérance, on va dire.
Oui.
Pas seulement des gens qui étaient présents autour de moi, mais aussi de moi-même et de ce que je pouvais projeter, des cinéphiles, des gens qui connaissent la nouvelle vague, Jean-Paul, Jean-Luc et tout ça. Et donc, voilà, donc il y a une pression qui s'était installée. Mais Richard nous a tout de suite rappelé qu'on jouait des gens qui n'étaient pas encore connus, qui n'avaient pas encore fait quelque chose de décisif. Ouais. Et donc, ils étaient encore, c'est Jean-Luc, Jean-Paul. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a, dans son discours, cité toutes les personnes qui ont travaillé dans le film par leur prénom.
Je crois j'ai dit à mes parents qu'il fallait que je fasse des films. C'est comme si on avait dit je veux être compositeur à quelqu'un qui n'avait jamais entendu de musique. C'est un terrain complètement inconnu pour eux, mais il faut que je réalise. C'est trop tard, Suzanne.
C'est jamais trop tard. Ça viendra quand ça viendra.
Et j'étais censé faire mon premier film avant l'âge de 25 ans. À rater la vague, ça ferait une belle épitaphe.
Tu as fait un film à 25 ans.
Un court-métrage.
Que tu as réalisé.
Peu importe, ça compte pas. Un court-métrage, c'est de l'anti-cinéma. Regarde les choses en face. Je suis le dernier des cahiers à réaliser un long. Rivette, oui. Romer, oui. Chabrol, deux fois, oui. Truffaut, oui. Romer a même écrit un roman. Et Truffaut a un an de moins que moi. Mais Godard, non.
Stéphane Battu, c'est quand même soufflant de voir ce garçon qui, tout d'un coup, devient Godard sous nos yeux, quoi. Le jeune Godard, c'est magique, quoi.
Oui, c'est assez. Il y a une chose assez extraordinaire de voir effectivement quelqu'un qui. Mais ça arrive souvent, même pour des rôles qui sont moins importants, de voir une personne qui arrive dans la salle de casting et qui. Par le regard qu'on porte sur elle, va devenir un personnage de fiction. Je pense que c'est, oui, une chose assez un peu alchimique comme ça qui se passe. Ouais. Mais ce que je pense par rapport à Guillaume, ce qui fait que ça, il y a une chose qui l'a aidé, c'est que il avait jamais joué et qu'il y a une sorte d'inconscience aussi à se lancer dans une aventure comme ça sans avoir la pression de l'anticipation, je dirais, d'avoir imaginé après avoir fait plein de castings, etc., que tout d'un coup c'est sa chance. Il est venu un peu comme ça en se disant bon ben je vais bien voir ce qui se passe et puis
ça c'est une force, je crois. Enfin, j'ai pour souvenir de mes premiers moments. Pendant le film de retour, enfin même avant le tournage de Retour à Séoul, quand j'étais en discussion avec Dewi Chou, le réalisateur, et je crois vraiment que cet état autre que l'état où on sait ce qui se passe, on sait que voilà c'est un casting, que c'est pour un film, et comment les acteurs et les actrices qui ont déjà tourné savent comment ça se passe, et avoir cette inconscience là, je pense que c'est vraiment une force.
Et après, on la perd, cette inconscience. Et après, ça devient un métier.
Ça devient un métier, mais je pense que c'est aussi un travail en fait, à faire de préserver en fait, cette inconscience.
Oui. Et
parce que c'est, le jeu, c'est vraiment le mot jouer. C'est jouer comme un enfant. Enfin, et cette inconscience qu'on a quand on est enfant, cette magie, en fait, je pense que c'est aussi un travail qu'il faut faire pour la préserver. C'est pas un truc... Enfin, oui, on peut la perdre, mais c'est un travail qu'on doit faire, je pense.
Il y a une sorte d'abandon qui est nécessaire,
oui,
en tout cas.
Oui,
et je pense que le film de David Chou est vraiment très très beau, et je te l'ai déjà dit, mais je trouve qu'effectivement, il y a on a le sentiment que tu te lances complètement avec une sorte d'innocence quoi, dans l'aventure et dans le personnage. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on voit aussi chez les personnes qui n'ont pas, pas peur quoi, d'y aller, parce que c'est une aventure, c'est la première aventure. Puis après, c'est vrai, c'est d'entretenir cette idée qu'on est, on va pas contrôler tout ce qu'on fait, on va faire confiance à la personne qui nous regarde. Et je pense que c'est un vrai travail et assez compliqué parce que il faut réussir à avoir confiance.
Ouais,
et
ça,
des fois, on a du mal à c'est faire sûr. Confiance parce que toutes les conditions ne sont pas réunies tout le temps, quoi.
Jimin Park, qui mieux que lui pour vous présenter David Chou, le premier cinéaste à vous avoir engagé sur un film, Retour à Séoul. Une jeune Française part à Séoul sur les traces de ses parents biologiques. David Chou a découvert une actrice et une grande personnalité aussi.
C'est une artiste plasticienne qui travaille à Paris, qui n'est pas adoptée elle. Elle est née en Corée, elle arrivait en France à l'âge de 9 ans avec ses parents en coréen. Mais en fait, et on m'avait dit ça quand quelqu'un m'a conseillé de la rencontrer, son parcours de vie, les multiplicités de vie qu'elle a eues parce que Freddy, c'est un personnage aussi qui change constamment de presque d'identité, comme on changerait de costume. Et ces gens qui justement ne savent pas qui ils sont souvent, il y a ce pattern là. Et ça a été fascinant de la rencontrer, comme si je rencontrais l'alter ego du personnage. Et effectivement, elle a son gros caractère. C'est dit un peu de façon un peu vite, mais c'était en fait ce qui s'est passé, c'est qu'elle a accepté. Donc déjà, elle voulait pas jouer la comédie. Elle a jamais pensé à être comédienne. Donc c'était aussi moi qui devais venir vers elle quand j'ai senti que c'était elle qui devait le faire, notamment quand on avait des castings, des essais castings, et qu'elle était brillante. Et puis ensuite, quand elle a accepté, en fait, on s'est perdu de vue pendant quelques mois, et puis en prépa, on se revoit. Et moi, j'avais prévu un programme de répétition très précis, et j'ai l'habitude de travailler avec des non-professionnels, donc il faut que ce soit ça, sinon sur le plateau, ça va pas marcher. Et elle me dit, écoute, j'ai relu le scénario, j'ai quelques questions. Et moi, naïvement, je me dis, bon, ben, on va parler une demi-heure, quelques questions, et puis après, on va aller dans la matière du travail. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Elle avait pris plein de notes sur le scénario, on ouvre, et en fait, il y avait des questions sur chaque scène, chaque dialogue, en me demandant de me justifier. Et donc, on est rentré dans ce débat-là, cette discussion-là, jusqu'à un moment que c'était un peu tendu, où j'ai compris qu'à un moment, il fallait pas essayer de gagner encore par le pouvoir les discussions en pensant qu'on allait trouver ça. Il fallait juste reculer un peu et écouter ce qu'elle avait à dire, parce que son expérience de femme asiatique vivant en France était plus proche de celle de Freddy que ne serait jamais la mienne. Donc, on a construit le personnage ensemble comme ça.
Stéphane Mathieu, vous la regardez avec intérêt. C'est vrai que c'est fou, une fille qui n'est pas actrice, qui est choisie pour un premier rôle et qui discute toutes les scènes.
Ah oui. Oui, bah, je pense qu'il y a une envie de comprendre un peu ce qui va se jouer. Parce que c'est un peu vertigineux quand même, quand on propose un premier rôle dans un film d'auteur. Mais j'ai été aussi très impressionné de voir ce que tu as fait dans le film d'Afsia. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas juste un coup comme ça, avec une rencontre miraculeuse. C'est aussi comment, petit à petit, il y a un travail qui se fait, une conscience peut-être de se dire qu'il y a un chemin qui commence à s'ouvrir. Quoi.
Oui, et c'est aussi que Afsia a... C'est vrai que c'est rare, je trouve, de voir des seconds rôles aussi bien écrit et aussi bien mis en image, je trouve. Et Afsia a fait ça, a fait cet exercice-là, a réussi à faire cet exercice-là.
Je crois que Afsia, elle s'intéresse aussi beaucoup à l'écrit, enfin, elle adapte aux personnes.
À l'humain,
Qu'elle rencontre.
Oui.
Et c'est ce qui se ressent dans la force de ses films.
En fait, elle filme ses actrices et ses acteurs avec amour. Et vraiment, elle a un amour, déjà pour le cinéma et pour les personnages, en fait. Et les actrices et les acteurs avec qui elle travaille.
Bon, pour revenir à Retour à Séoul, c'est une très belle opportunité pour vous. C'est un peu, ça pourrait être votre histoire. C'est pour ça que vous avez gommé un peu le regard masculin du cinéaste là-dessus.
Oui, oui.
Mais oui.
Oui, clairement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lu le scénario. Et c'est vrai que j'avais vraiment pris énormément de notes. Parce que pour moi, il y avait vraiment des choses qui me posaient question déjà d'abord et qui me posaient problème parce que c'était un scénario écrit par un homme, David Chou, et il est enfin vraiment c'est comme mon frère de cœur David Chou, mais c'est vrai que c'est un homme qui n'a pas cette expérience d'être femme racisée vivant en France. Et du coup, on a vraiment énormément discuté du personnage et du scénario. En fait, on n'a pas discuté que de mon personnage. On a vraiment discuté de la structure en fait, du scénario, parce que pour moi, il fallait que je comprenne d'où est-ce que ça venait et jusqu'à où il voulait aller, parce que il y avait des choses qui pour moi étaient clichés en fait.
Est-ce que le fait que vous soyez artiste à côté, que vous ayez une vraie activité, vous donne cette liberté-là justement? Vous n'aviez pas faim au point de, il fallait ce rôle, c'est une question de vie ou de mort?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout. Enfin, vraiment, il y a plein de fois où je me suis dit bon, je vais peut-être je vais pas le faire ce film. Enfin, je me suis même pas imaginé une seule seconde avant Retour à Séoul que j'allais jouer dans des films. Après, je suis très très cinéphile. Vraiment, j'adore regarder des films. Enfin, j'adore ça depuis toute petite. Et j'ai eu cette chance d'avoir des parents qui m'ont vraiment très vite montré beaucoup de films. Peut-être un peu trop jeune, des films d'adultes, mais en tout cas, vraiment, ça me nourrit. Et je pense que oui, j'ai cette liberté-là. Après, enfin, sur un tournage, vous comprenez très vite que en fait, c'est vraiment un travail collectif et que, enfin, vous pouvez pas dire non, on va faire comme ce que j'ai prévu et ce que j'ai envie. mais En tout cas, quand je travaille, c'est sûr que être artiste et de comment je travaille en étant artiste m'aide énormément en fait à construire mes personnages,
à savoir,
à penser.
C'est-à-dire,
oui.
Comment ça se passe le relais entre les deux ?
Eh bien, le relais entre les deux, je joue comme quand je travaille à l'atelier. C'est que je prends des choses qui sont très très intimes au fond de moi et je les transforme en un langage qui est très personnel. Donc, dans mon travail plastique, je travaille avec des matériaux. Donc c'est vraiment, c'est pas moi qui suis le matériau, mais vraiment le processus en fait de création, je trouve que c'est exactement le même. Moi je prends des choses vraiment très très intimes et je les transforme en quelque chose de plus universel. Et c'est ça l'art, faire de l'art et faire de la création, je crois.
D'ailleurs, Afsia Herzi, ils en sont servis puisque vous êtes artiste avec les mêmes matières dans le film La petite dernière.
C'est vrai qu'on voit, parfois des dessins, des créations à moi, oui.
Vous avez énormément de talent tous les deux. Guillaume, vous étiez photographe avant, vous avez passé pas mal de à travers le cinéma, vous avez eu beaucoup de fonctions. Donc, mais là aussi, c'est pas une question de vie ou de mort. Enfin, je veux dire, c'est quoi pour vous le cinéma et être comédien alors maintenant ?
Non, mais en plus, moi j'avais envie d'être peintre à un moment quand j'étais plus jeune, ouais. Mais c'est vraiment le métier où tu te dis tu vas être l'artiste incompris qui gagne pas d'argent et tout. Genre, je me suis dit ça va être très dur.
C'est dur.
Et donc j'ai pas eu cette force que tu as eu de prendre cette voie-là. Donc je respecte à 100% ton chemin. Et en ce qui me concerne, oui, j'ai été photographe. Oui. Peut-être que je le redeviendrai s'il n'y a pas de proposition. Et ça me rassure en fait de me dire que si jamais j'ai pas besoin en fait de cet écosystème pour survivre. Et je pense que c'est hyper important en tant que comédien, même si tu fais pas le taf de tes rêves, c'est bien d'avoir une source de revenus à côté. Comme ça, au moins, t'es sûr, quand tu vas en casting, que tu joues pas ta vie financièrement, ta survie, et que t'y vas vraiment pour ce que tu as au fond de toi qui t'anime. T'y vas pour ton plaisir d'artiste, t'y vas pour défendre quelque chose. Et pour moi, en fait, c'était tellement rare d'avoir des castings que quand je faisais de la photo, quand j'en avais un, c'était la récréation. Ouais. J'y allais avec le sourire, avec l'envie de le faire. Et j'avais très peu de temps, en fait, pour me préparer. Ouais. Et du coup, ça m'a permis d'avoir une sorte d'efficacité aussi dans la préparation.
Et une force. Vraiment une force.
Deux personnalités, deux jeunes personnalités d'acteurs assez étonnants. Hein, Stéphane Battu, vous restez avec nous tous les trois. Jimmy Park, Guillaume Marbeck, Stéphane Battu. Après, Benjamin Biolay, Soleil Profond. On se retrouve pour les sorties.
Sacrifice au soleil, une vallée de feu.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
On va commencer la revue des films, Laurent, par ce film américain Is This Thing On de Bradley Cooper. Un couple au bord du divorce, lui, Alex, la cinquantaine, paumé, atterrit dans un comedy club et pour une consommation gratuite accepte de monter sur scène et il va s'y révéler. Sa vie, ses failles, quel pitch inspiré en plus d'une histoire vraie, celle de John Bishop, ancien footballeur devenu comique. Et Bradley Cooper a donné le beau rôle à son grand copain Will Arnett. Hommage à l'amitié et à la condition d'acteur dans cette comédie du remariage.
Oui, c'est le troisième long réalisé par Bradley Cooper, après la réussite de Star is Born et, il faut bien le dire quand même, l'échec de Maestro. Donc il revient, mais pas dans le rôle principal cette fois. C'est effectivement Will Arnett qui s'y colle, avec une Laura Dern à côté de lui, absolument parfaite. Alors on plonge avec délice dans l'univers du stand-up amateur à New York, effectivement, et dans une variation plutôt réussie sur la comédie du remariage, cher, si cher à Hollywood, avec une métaphore qui fonctionne pas mal, plutôt bien. Le couple vu comme un sketch, réussi ou non. Oui. Un début qui appâte, un milieu qui dure et une chute qui passe ou qui casse.
Orwell, 2 plus 2 égale 5 de Raoul Peck avec la voix d'Éric Ruff. 2 plus 2 égale 5 plonge dans les derniers mois de la vie d'Orwell et dans son œuvre visionnaire pour explorer les racines des concepts troublants qu'il a révélés au monde dans son chef-d'œuvre dystopique, le double discours, le crime par la pensée, la novlangue, le spectre omniprésent de Big Brother, un film discours qui nous alerte sur le présent et ses dérives, régimes dictatoriaux et perte d'esprit critique. Mais ce trop-plein de réflexions, d'images, d'effets, d'archives, de slogans finit par nous étouffer et surtout nous laisser sur le bord de la route, aussi intelligent soit-il ce constat.
Oui, on a évidemment quelques scrupules à émettre, des réserves, parce que le propos du film de Peck est assurément intéressant, pertinent, nécessaire, utile, tout ce qu'on voudra. Malheureusement, le doc veut tout dire, la vie d'Orwell, ses écrits, leur pérennité, le monde actuel, son horreur économique notamment. On finit effectivement, vous disiez, par étouffer sous l'avalanche de paroles, de citations que relaient des images tout aussi en avalanche. À force de vouloir prouver l'actualité d'Orwell, Peck finit par multiplier même d'ailleurs les anachronismes hasardeux ou trop simplistes au risque d'affaiblir la noblesse évidente de son propos.
Woman and Child du cinéaste iranien Saïd Roustahi. Manraz, une infirmière de 45 ans, élève seule ses enfants alors qu'elle s'apprête à épouser son petit ami. Son fils Aliar est renvoyé de l'école lorsqu'un accident tragique vient tout bouleverser. Manraz se lance dans une quête de justice pour obtenir réparation. Un autre grand portrait de femme après Leïla et ses frères du même cinéaste, porté cette fois par une actrice intense, Parinaz Izadiar, une mère qui représente toutes les femmes luttant pour leur droit contre un patriarcat toxique. Une mise en scène spectaculaire, nourrie de rebondissements excessifs peut-être, mais pas autant que la violence de ce système, Laurent.
Oui, alors moi je trouve que de film en film, hélas, hein, quand même, et de plus en plus surtout, le cinéaste affiche son goût de l'outrance et de la surenchère scénaristique artificielle. La machine à rebondissement est en marche, rien ne l'arrête, rien n'est épargné à aucun protagoniste et surtout à l'héroïne principale, évidemment. Le film devient alors un mélo absolument survitaminé et contrairement à Panahi, notamment, Roustahi n'est pas dans la dissidence et il filme par exemple des actrices voilées, même dans l'espace domestique, ce qui a posé problème localement. On aimerait moins de bruit et plus d'audace.
Rue Malaga de Mariam Touzani avec la grande Carmen Maura qui incarne Marie Angeles, une Espagnole de 79 ans qui vit seule à Tunis, dans le nord du Maroc, oui, où elle profite de sa ville et de son quotidien. Sa vie bascule lorsque sa fille Clara arrive de Madrid pour vendre l'appartement dans lequel elle a toujours vécu. Elle va mettre tout en œuvre pour garder sa maison et récupérer les objets d'une vie et, contre toute attente, redécouvrir en chemin l'amour.
Alors évidemment, Carmen Maura, qui est le tous les plans, ou presque, est épatante, y compris dans sa volonté littérale de se mettre à nu, sans réserve, ni tabou. Ça, on ne peut que lui donner acte de ça, et c'est magnifique. D'accord, mais faut-il pour autant transformer le Maroc en un pays de bisounours? Tout le monde y est tellement beau, tellement gentil, les flics, les voisins, les jeunes, les vieux. Seule la fille de l'héroïne a tous les défauts, la pauvrette. Et le film vire alors à la caricature, au point de s'offrir le luxe d'une fin dite ouverte, mais
mais qu'on dirait plutôt facile, paresseuse et hors sol.
Un charmant récit, un charmant film qui sublime la vieillesse avec Carmen Mora, rue Malaga. Ah voilà. 5 cm par seconde, c'est l'adaptation en prise de vue réelle d'un dessin animé de Makoto Shinkai, qui était très connu et réalisé cette fois par Yoshiyuki Okuyama. 5 cm par seconde, c'est la vitesse à laquelle tombent les pétales de fleurs de cerisier. Voilà pour le titre. Le film, lui, raconte toutes les occasions ratées d'un amour entre Takaki, jeune informaticien, qui se souvient de sa rencontre avec Akari. C'est long et surtout... mièvre.
Ouais, ouais, ça a fait quand même 1,5 million d'entrées au Japon, ouais, ce qui est beaucoup. Moi, j'avoue ne pas avoir vu le film d'animation dont c'est en quelque sorte le remake, avec manifestement beaucoup d'adaptations quand même, mais donc pas de possibilité de comparaison. Mais le film de 2026 est un assez lourd gâteau, effectivement assez sucré, plein de nostalgie et de mièvrerie. C'est un déluge d'images très délicates, très jolies. Alors on nous dit que c'est 5 cm par seconde, j'avoue que c'est les secondes qui durent. Effectivement,
et des heures.
Oui, absolument.
En ressenti. Justa, de la cinéaste portugaise Teresa Villaverde, en 2017, une région du Portugal est ravagée par de gigantesques incendies. Et chacun affronte ses traumas, ses silences, ses fantômes après. Une réflexion sur la façon dont les êtres vont réinventer leurs liens, Laurent.
Oui, c'est une grande, grande cinéaste portugaise, Teresa Villaverde. Et là, elle fait peut-être un film en mode qu'on peut estimer mineur, mais c'est pas si simple que ça. Les incendies meurtriers de 2017 comme contexte, effectivement. Et avec la belle idée de se concentrer sur l'après, on ne voit absolument aucune flamme dans ce film, il faut le dire. Et par contre, on voit les effets, notamment sur les corps, et notamment le père de la petite fille, qui a un très grand brûlé dans la vie, mais il n'y a pas de voyeurisme, il n'y a pas de jugement. Et... ce qui se construit, c'est une poésie toute centrée sur le décor, notamment cette chambre verte que la petite fille entretient, en hommage presque à François Truffaut, et puis cette forêt calcinée dans laquelle on se promène comme un rappel de ce qui s'est passé.
Le son des souvenirs du cinéaste sud-africain Olivier Armanus, Lionel, jeune chanteur talentueux, originaire du Kentucky, grandit au son des chansons que son père chantait sur le perron de leur maison. En 1917, il quitte la ferme pour intégrer le conservatoire de Boston, où il fait la rencontre de David, un étudiant en composition aussi brillant que séduisant, mais leur lien naissant est brutalement interrompu lorsque David est mobilisé à la fin de la guerre. Bon, il faut aimer les chansons. Alors, d'abord, c'est avec Josh O'Connor et Paul Mescal, quand même. Il faut aimer les chansons folkloriques dans ce récit d'une passion amoureuse étirée jusqu'à l'ennui, malgré leur interprétation. Moi, j'appelle ça une purge.
Mais quel beau titre, quel beau duo d'acteurs, et pour le reste, quel naufrage. Effectivement, c'est d'un académisme redoutable, alors je sais pas, il y a certainement des gens qui adorent ce genre de chansons, mais comme elles sont à la fois répétitives, lancinantes et à mon sens sans âme, ça fait beaucoup.
Heureusement, ressort cette semaine Nouvelle Vague de Richard Linklater.
Absolument.
N'est-ce pas ?
Let's go !
Allez-y.
Alors, c'est pas qu'un film sur la Nouvelle Vague. C'est un film sur la jeunesse et sur la liberté et sur l'envie de filmer qui devrait donner envie à tout le monde de faire du cinéma, quels que soient les moyens employés. Très beau film.
Ouais, c'est l'irrévérence.
Exactement.
Prenez votre caméra et allez faire des films. Et je vous mets au défi de voir ce film et de ne pas avoir envie de créer quelque chose après.
Et ben, très
même si vous n'aimez pas la mer, la montagne, etc.
Ouais.
Mais bien sûr, évidemment.
N'allez pas vous faire foutre, allez en salle, le voir.
Une reprise, La famille Nolka, d'un certain cinéaste tchèque qui s'appelait Jaroslav Papoussek.
Oui, qui était en fait un collaborateur de Miloš Forman. On voit les enfants de Forman d'ailleurs dans ce film, qui est un film de famille qui a été fait en 1969, c'est-à-dire un an après la terrible désillusion qui a envahi le pays avec l'invasion soviétique. Et c'est le portrait au vitriol d'une famille petite bourgeoise avec son lot de lâcheté, de cruauté et de conformisme. C'est très très réjouissant. On peut signaler aussi, pas tout de suite, mais que le 23 mars, à la Cinémathèque, eh bien, les Parisiens notamment pourront aller voir ou revoir Vif Argent, réalisé par un certain Stéphane Battu.
Voilà,
et vous y serez d'ailleurs à cette projection.
Oui, j'y serai avec Céline Bozon et Tom Harari qui vont parler de l'image.
L'image.
Et juste avant, il y a un film que j'ai fait aussi.
Un court-métrage.
Le Rappel des oiseaux, qui est un documentaire que j'ai tourné au Tibet sur un rituel funéraire. Donc voilà.
Et moi, je veux voir d'autres films de Stéphane Battu, parce que Vif Argent, vraiment, c'est excellent. C'est un des rares films qui est vraiment novateur et que moi j'ai adoré, et il a d'autres idées qui sont vraiment formidables que j'ai envie de voir.
au cinéma.
Un festival très vite de chef-op.
Chef-op en lumière, 8e édition du 28 février au 8 mars à la Chalon-sur-Saône, avec Agnès Godard en présidente du jury, et puis un ciné-concert sur Au bonheur des dames de Julien Duvivier notamment.
Qu'est-ce que vous vouliez dire?
Oui, je voulais juste dire que j'ai un... c'est Lucy Jiang, pardon, je reviens complètement au début de l'émission, mais c'est l'actrice qui a joué dans l'avant-dernier
Olympia. Très bien. Voilà. Et sinon, il y a un certain Park Chan-wook qui va être le prochain président du jury du Festival de Cannes, un grand cinéaste coréen. Laurent, les cadeaux.
Et ben pour vous, Jimmy, on restera pour ces trois cadeaux dans l'environnement asiatique. Oui. Avec d'abord pour vous Nuages flottants. Je ne sais pas si vous avez vu ce film de Mikio Naruse, qui est une perle, un chef-d'œuvre de 1955. C'est un flamboyant mélo d'un pessimisme absolument radical. C'est à l'os, c'est Carlotta qui édite ce Blu-ray, et on vous le recommande chaudement. Pour vous, Stéphane Battu, Histoire de fantômes chinois, produit par Chui Yark, de Ching Siu Tung, je suis en train d'écorcher tous les mots. C'est une saga culte en 4K et en Blu-ray. C'est burlesque, fantastique, et s'il y a des arts martiaux, c'est dire si on adore. Merci. Il y a beaucoup de bonus et c'est édité par HK Vidéo.
Et pour Guillaume Marbeck.
Et pour vous, Guillaume Marbeck, évidemment, ce grain de Yakuza de Takashi Miike, c'est typiquement pour vous chez Carlotta, c'est un Blu-ray.
Merci beaucoup, il va falloir que je m'achète une platine maintenant.
Ouais, merci.
Forme de cadeau.
Merci Guillaume Marbeck, merci Jimmy Bach, merci Stéphane Battu pour ce beau plateau avec vous. Merci à notre équipe, Valérie Ayestaray à la réalisation, Benjamin Ducy à la préparation, Olivier Rioux pour la programmation musicale, et aux manettes ce matin, Théo de Lobadère.
Merci.
Au revoir.
Salut.
C'était On aura tout vu sur France Inter.